Bonjour. Bonjour. Oula. C'est ma voix qui est comme ça? Tu vois, ça va, c'est mieux? Non, c'est mieux. Il faut que j'enlève ça. C'est mieux comme ça? J'ai une drôle de voix, hein? Non? Elle est bizarre, ma voix. Tu veux que je... Peut-être que je change? C'est bizarre. Bref. J'ai vraiment une drôle de voix. Ça va, Juan Pablo? C'est mieux? Tu veux que je parle fort? Que je parle fort? Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour. Welcome to Dean and Martil. Voilà, on a deux amis anglais qui sont là derrière. Il y a quelques visages sympathiques qui nous fait plaisir de voir Jonathan aussi. Je sais pas. Oui, Anaïs, j'ai dit tout doucement, c'est pour ça. Je sais pas. Elle est timide. Bon. Allez, est-ce que quelqu'un peut éteindre la lumière? Abès, tu peux éteindre la lumière qu'on voit un tout petit peu mieux l'écran? Hop. Ça va marcher. Super, bouge pas. Hop, impeccable. Si tu veux mettre la diapo suivante, je voulais vous montrer ceci. En 2006, le journal La Vie a commandé un sondage auprès de l'Institut de sondage CSA sur 1000 Français, avec une question qui est un peu compliquée, qui est « Indépendamment du fait que Jésus ait existé ou pas, selon vous, dans la liste des expressions suivantes, pouvez-vous me dire celle qui correspond le mieux ce que représente Jésus pour vous ?» Que je vais résumer en une phrase. Qui est Jésus pour vous ? Qui est vraiment Jésus ? Et voici les résultats en 2006. 30% des Français pensent que c'est un homme comme les autres. 27% pensent que c'est le Fils de Dieu. 20% que c'est un guide. Voilà, vous voyez les propositions, 17% un sage, un prophète, un exemple d'amour. Rien de cela et d'autres ne se prononcent pas. Voici le résultat de la France en 2006. Je ne sais pas ce que ça donnerait en 2018, 12 ans plus tard. Est-ce que ce serait pire peut-être? Qui est vraiment Jésus-Christ? Qui est Jésus? Si tu veux avancer à la diapo suivante, pour ceux qui viennent souvent à l'église, vous savez que c'est une photo que je vous mets souvent au début de mes messages parce que je suis dans une série où je veux redécouvrir qui est Jésus-Christ et ce qu'il dit, ce qu'il fait à travers les évangiles. Et donc, qui est Jésus? Est-ce que Jésus est cet homme qu'on voit sur cette photo au centre? Non. Le passage qu'on va lire ce matin est pour moi un de ceux qui décrivent le mieux qui est Jésus-Christ. Avant qu'on ouvre nos Bibles et qu'on lise ce passage, je voudrais qu'on regarde le contexte du passage. Parce que c'est important, quand on lit la parole, de comprendre, lorsqu'il se passe quelque chose, qu'est-ce qui s'est passé juste avant. Et le contexte, c'est Jésus qui pose la question à ses disciples, « Mais qui dites-vous que je suis? Qui suis-je ?» Et Pierre va répondre, « Mais tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus dit qu'il va bâtir son Église sur cette déclaration, sur ce fondement. Et on voit que suite à cette déclaration, il y a un basculement dans les évangiles. Jusque-là, le Seigneur parlait de l'établissement de son règne, de son royaume. Et à partir de ce moment-là, il va leur parler, et c'est ce verset qui est là, qui dit « Dès lors, il va leur parler de ses souffrances et de sa mort qui vient. » Et en fait, pour ça, Pierre, ce n'est pas possible. Il attend un Messie glorieux, il attend un règne, il attend qu'on chasse les Romains. Il a du mal à comprendre ça, que son Messie doit souffrir et mourir. Il va dire, ça ne va pas t'arriver. Et vous connaissez la réponse de Jésus qui reprend sévèrement son disciple, arrière de moi, Satan. Et juste derrière, Jésus va les appeler, et c'est le verset qui est là, à renoncer à eux-mêmes, à prendre leur croix, se charger de sa croix et à le suivre. Il dit ça juste après, je vais souffrir et mourir à Jérusalem. Quelle perspective ? Je vais suivre mon maître, qui va souffrir et mourir, ce que je n'accepte pas, et me demande de le suivre. C'est une perspective vraiment difficile pour ses disciples. Alors notre Seigneur va les encourager. Et c'est ce dernier verset que j'ai noté, où il leur dit que ils vont voir le Fils de l'homme venir dans son règne et qu'il rendra à chacun selon ses œuvres. Et il termine par cette affirmation, certains ne mourront pas sans avoir vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Ouvrons nos Bibles. Matthieu 17. Et on va lire les 10 premiers versets de Matthieu 17, où à ses disciples plutôt découragés d'une telle perspective, il va prendre quelques-uns. Matthieu 17, au verset 1er, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ses paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, « Ne parlez à personne de cette vision. » Jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. » Les disciples lui posèrent cette question. Non, je vais pas, je m'arrête là. Jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Passage extraordinaire. Toute la parole de Dieu est belle, mais ce passage est pour moi vraiment d'une beauté, vraiment... Enfin, il touche particulièrement mon cœur. On voit au verset 1er qu'il va emmener 3 de ses disciples, les plus intimes, ceux qu'il a toujours avec lui dans ces moments. On le voit lors de la résurrection de la fille de Jaïrus, par exemple, où il les emmène. On les voit, ils sont aussi ceux qui seront au jardin de Gethsémané. Et il emmène ces 3 disciples-là. Mais pourquoi seulement 3? Moi, si j'avais été Jésus-Christ, je l'aurais fait à Jérusalem. Hop, j'apparais en gloire devant tous les disciples, il n'en choisit que 3. Pourquoi que 3? Parce qu'en fait, je crois que si il avait manifesté ce qu'il est, ce qu'on va lire là, je pense que tous les disciples et toute la foule auraient voulu le faire roi. Ils n'auraient pas accepté ce Messie souffrant et mourant. Ils l'auraient poussé à être roi. Mais c'est parce que notre Seigneur voulait ce chemin, suivre le plan de Dieu. Et donc il a juste pris ces 2 ou 3 qui allaient être quelque part vraiment fortifiés par cette vision. Et plus tard, comme il leur dit à la fin, n'en parlez à personne jusqu'à ce que je sois ressuscité. Une fois qu'il sera ressuscité, ces 3 disciples-là pourront témoigner de ce qu'ils ont vu. Et d'ailleurs, ce qu'on lit dans Matthieu n'était pas sur la montagne. Matthieu retranscrit ce que Pierre, Jacques et Jean ont vu après qu'il soit ressuscité. Verset 2, et c'est un verset que je vais commenter. Il fut transfiguré devant eux. Si tu veux avancer, voilà. Il est transfiguré. C'est le mot métamorpho qui a donné en France, en français, métamorphosé. Il est littéralement, mais il change de forme devant eux. Et cette expression, son visage resplendit comme le soleil. Ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Des vêtements blancs comme la lumière. C'est vraiment difficile à décrire. Si vous prenez Luc 9, qui est un passage parallèle de celui-ci, en fait, Luc, il a du mal à expliquer les choses. C'est trop compliqué. Donc, je vous le lis, il dit « Ses vêtements devinrent resplendissants d'une telle blancheur qu'il n'a pas de blanchisseur sur terre qui puisse blanchir comme cela. » Il fait tout ce qu'il peut pour essayer d'expliquer, parce que c'est quand même très compliqué d'expliquer à quel point c'est extraordinaire cette lumière. Alors moi, je ne suis pas un pro du lavage du linge, donc le linge blanc éclatant, ça ne me parle pas. Il faut plus me parler d'halogène, parlez-moi de lumière de phare, si vous voulez. Comme le ciel, comme le soleil dans son zénith, il brille. Et on peut lire ces versets, parce que vous les connaissez, ces versets. On peut les lire et on passe dessus sans mesurer la grandeur de ce qui se passe là, dans ce verset-là. C'est extraordinaire, c'est waouh. Notre Seigneur a fait des miracles, il a changé l'eau en vin, il a arrêté la tempête. Mais pour moi, ici, il y a plus que ça. C'est lui-même qui se révèle tel qu'il est. C'est plus qu'arrêter la tempête. Pour moi, c'est... Parfois, des hommes de Dieu ont des rêves, des visions. Là, ce n'est pas une vision, c'est Jésus qui change littéralement de forme devant eux. Et on va aller lire ça, on va trouver en Apocalypse 1er une vision très très similaire, et je vais juste la lire. Apocalypse au chapitre 1er, Jean a une vision, elle est vraiment très très similaire à ce que peuvent voir les disciples. Apocalypse chapitre 1er, et c'est Jean qui parle. Et je vais commencer au verset 12. Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis sept chandeliers d'or, et au milieu des sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'ils avaient été embrasés dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait de sa main droite sept étoiles, de sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Même vision extraordinaire qu'ont pu voir les disciples, Pierre, Jacques et Jean. Et je voudrais attirer votre attention sur le fait que là, on voit Jésus qui est éclatant de lumière et que dans toute la parole, en particulier dans l'Ancien Testament, c'est une constante, ça veut dire quelque chose, cette lumière. En fait, notre Dieu est esprit et par définition, un esprit n'est pas physique, n'a pas de, voilà, il n'a pas de corps à part l'incarnation de Jésus-Christ. Il est invisible par nature. Mais lorsque Dieu se manifeste ponctuellement dans l'Ancien Testament, il va se manifester, et quand il se manifeste de deux manières, souvent couplées. La première, c'est une nuée lumineuse qui apparaît, et puis parfois, c'est à travers, quelque part, une vision d'un fils d'homme, etc., qui manifeste la lumière. La gloire de Dieu se manifeste par cette nuée lumineuse. Alors, j'ai cité ici un certain nombre de versets, on ne va pas tous les lire. Exode 24, c'est le passage qui dit qu'on voit une nuée et qu'à l'intérieur de la nuée, il y a comme un feu dévorant, une lumière dévorante dans la nuée. Le passage que je veux qu'on lise, c'est Exode 34, parce qu'elle ressemble beaucoup à ce qu'on vient de lire. Quelqu'un qui est sur la montagne et qui brille. Mais c'est Moïse, c'est pas Jésus-Christ. Exode 34, au verset 29, on va commencer au verset 28. Et Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain et ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance, les 10 paroles. Et Moïse descendit de la montagne du Sinaï, ayant les 2 tables du témoignage dans sa main, en descendant de la montagne. Il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse, et voici la peau de son visage rayonnait. Et ils craignaient de s'approcher de lui. Moïse les appela, Aaron et tous les principaux de l'assemblée vinrent auprès de lui et il leur parla. Je vais juste ôter le verset 32. Et lorsque Moïse eut achevé de leur parler, il mit un voile sur son visage. Quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler, il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il sorte. Et quand il sortait, il disait aux enfants d'Israël ce qui lui avait été ordonné. Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse et voyaient que sa peau de son visage rayonnait. Et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entre pour parler avec l'Éternel. Ça ressemble, mais ce n'est pas pareil. Moïse, c'est comme un miroir, c'est comme une éponge, je ne sais pas si ça se dit, une éponge à lumière. Je ne sais pas comment dire ça, enfin voilà. Si, ça, c'est bien mon expression. Enfin bref, une éponge à lumière. Hop, il absorbe ce qu'il a et il la restitue. Sauf que ce qu'on lit en Matthieu 17, ce n'est pas une éponge. C'est la lumière. C'est la source lumineuse qui est là devant les disciples. Jésus est là dans toute sa gloire. Et vraiment, cette notion de lumière, et on ne va pas lire tous les passages que vous trouverez en Daniel, en Ézéchiel, en Luc, etc. Vous trouverez systématiquement, pour ceux qui veulent chercher, c'est vraiment une constante, la gloire de Dieu se manifeste par une lumière éclatante. Et là, notre Seigneur se manifeste comme cela. Si tu veux avancer. Et en fait, c'est comme si notre Seigneur est là et il est cet homme. Et puis d'un seul coup, c'est comme si un voile était enlevé. Et d'un seul coup, waouh, il est là. Et pour quelque part appuyer cela, j'ai mis ce verset de Jean 17. On est juste avant que Jésus n'aille à la croix. Et en fait, il prie son Père et il dit « Et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. » Pour schématiser un peu, Jésus est ce Fils de Dieu, Dieu lui-même, d'une splendeur infinie, d'une gloire infinie. Ça, c'est depuis l'éternité passée. Puis il s'incarne, il va naître et pour quelques années, il va être cet homme, quelque part où Ésaïe nous dit qu'entre nous dit qu'il n'avait rien en lui pour nous le faire désirer. Et son humanité va masquer sa gloire. Il va mourir sur la croix et t'élever et comme il peut le prier à son Père, glorifie-moi. Et il est élevé, glorifié, et il retrouve sa gloire qu'il avait avant. La gloire de Dieu, splendeur, majesté, éclatante majesté de gloire. Voilà qui est Jésus-Christ. Si vous savez, si vous ne savez pas qui est Jésus-Christ, et je reviens à ma question du départ, voilà qui est Jésus-Christ. Le Fils de Dieu rempli. J'ai du mal à trouver les mots en fait. Éclatant de gloire, c'est lui Jésus-Christ. Rien de moins. On ne va pas le lire parce que je ne veux pas être trop long, mais dans la deuxième épître de Pierre, je l'ai noté ici, dans la deuxième épître de Pierre, Pierre il va parler de ce qu'il a vu sur la montagne de la Transfiguration. Et vous avez 4-5 versets où il parle de cette expérience et il dit « Nous avons vu sa majesté de nos propres yeux. Voici qui est Jésus-Christ. » Dieu majestueux, rempli de splendeur. Et je voudrais juste vous faire réfléchir un instant à ça, c'est que là, dans ce passage, vous avez comme un instantané de gloire au milieu de la vie de Jésus-Christ, une vie d'homme merveilleuse. Et on voit combien, en tant qu'homme, c'est un homme parfait qui a une beauté morale sans nul autre pareil. Mais on pourrait dire aussi de la même manière que son humanité, c'est comme un instantané dans une éternité de gloire, en fait. Notre Dieu est d'abord le Fils de Dieu glorieux et qui a fait ce chemin pour venir vers nous. Et donc, je vais répondre à la question de départ, qui est Jésus-Christ ? Premier point, il est de toute éternité le Dieu glorieux. Et on le voit par cette manifestation glorieuse. Il est le Dieu glorieux. On va poursuivre au verset 3, si tu veux avancer. Au verset 3, on trouve deux personnes qui se trouvent à côté de lui, Moïse et Élie. Alors, on ne sait pas pourquoi, enfin, on ne sait pas comment ils le reconnaissent. Je ne sais pas si pourquoi. Bref, peu importe, ils le reconnaissent. Ils reconnaissent que c'est Moïse et Élie. Et pourquoi ces deux personnes? Pourquoi pas Abraham? Pourquoi pas? Je ne vais pas bien vous dire. Si ce n'est que ces deux personnes essentielles de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance. Deux hommes de Dieu immenses. Parfois, Jésus, lorsqu'il parle de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance, il parle de la loi et les prophètes. C'est comme ça qu'il les appelle. Et pour moi, ça révèle bien, ces deux personnes-là révèlent Moïse, celui qui a donné la loi, Et puis les prophètes, Élie est le représentant, et peut-être le plus grand de tous les prophètes, enfin difficile à dire. Il est bien le... Voilà. Et ces deux personnes-là sont là présentes. Alors on ne le voit pas dans Matthieu, on le voit dans le passage de Luc, qui est le passage parallèle. Et Luc 9,31, je l'ai noté, il parlait de son prochain départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Son prochain départ, c'est sa mort. Élie, Moïse parle avec Jésus-Christ de sa mort prochaine. Et pensons déjà aux premiers spectateurs de cette scène. Les premiers spectateurs, ce sont les trois disciples. C'est Pierre qui ne pouvait pas comprendre à ce moment-là que son Seigneur allait mourir. C'est pas possible. Et donc il dit à Jésus, ça t'arrivera pas, ce qu'on a lu, ce que je vous ai dit au départ. Et je lui dis, si, c'est ça qui va arriver. Si tu crois que le chemin que tu me proposes n'est pas celui d'aller à la croix, alors arrière de moi, Satan. Et donc Moïse et Élie sont là pour confirmer à ses trois disciples. Voilà, c'est bien ça. Jésus-Christ est bien le Messie qui va souffrir à mourir. Je l'atteste. Moi, les deux plus grands hommes de l'Ancien Testament, je le confirme. Qui est Jésus-Christ ? Deuxième affirmation. Jésus-Christ est le Messie qui a été annoncé par les prophètes. Et sa mort à Jérusalem n'est pas une erreur. C'est juste le plan de Dieu. Et les disciples ont dû le comprendre en voyant Moïse et Élie qui discutaient avec lui de sa mort prochaine. Je vais passer rapidement sur le verset 4 où on voit Pierre qui prend la parole et qui veut construire des tentes. C'est Pierre est fidèle à ce qu'il est. Si vous connaissez bien Pierre, il dit souvent des bêtises. C'est un peu comme nous, hein. Enfin voilà. Bref, je vais pas le commenter. Pour ceux qui veulent chercher un peu, on voit qu'il veut proposer de faire des tentes. Ça fait probablement référence à la fête des tabernacles ou la fête des cabanes. Voilà, je vous laisse creuser ça, c'est quelque chose d'assez intéressant, mais pour pas être trop long, je passe cette partie-là pour passer au verset 5. Et au verset 5, si tu veux juste avancer, hop, verset 5. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et une voix se fit entendre. Je vous l'ai dit tout à l'heure, cette nuée lumineuse, c'est la manifestation de la sainte présence de Dieu. Dieu est là. Et cette nuée de gloire, moi j'ai mis quelques versets, c'est juste pour ceux qui veulent travailler, vous trouverez ça un peu. Lorsque Dieu prend possession du tabernacle, le peuple avait construit le tabernacle, lorsque Dieu descend et vient habiter dans le lieu très saint, vous avez cette nuée lumineuse qui est là. Lorsque Dieu descend dans le temple de Salomon, là vous avez encore cette nuée qui est là. Lorsque Dieu vient et se manifeste par sa présence, alors la nuée de gloire est là. Et à chaque fois, les hommes ne peuvent rester. La présence de Dieu est telle que je suis quelque part, je ne peux pas résister, je ne peux pas tenir. Et une fois de plus, je voudrais qu'on prenne le temps de s'arrêter sur ce passage-là, parce qu'on le lit comme ça et on pourrait le lire très facilement. Quelle situation ? Nous avons ici deux manifestations de la gloire de Dieu. Jésus-Christ présent, resplendissant de lumière, éclatant, et en même temps, la nuée qui descend, d'où une voix va sortir, la présence du Dieu Tout-Puissant, le Père est là. On a quelque part dans ce passage une double manifestation de la gloire de Dieu. C'est assez rare dans la parole, hein. C'est vraiment waouh. Bref, magnifique passage. Et une voix va sortir de cette nuée. Alors, ça c'est mon interprétation, ce que je vais vous dire, mais en fait, le verset 5 dit « comme il parlait encore ». Je crois que Dieu, quand Pierre raconte des bêtises, c'est comme s'il disait « écoute, tais-toi ». Parce qu'il veut faire trois tentes, une pour Moïse, une pour Élie, une pour Jésus. Dieu lui dit « non, écoute, s'ils sont pas sur le même niveau, hein. Il y a Moïse et Élie, mais il y a Jésus, il est juste tout là-haut. Ils sont pas pareils. Hein. C'est pas la peine de faire trois tentes, une seule suffirait. Même, je ne sais pas s'il faut faire des tentes. Ici, il y a mon fils bien-aimé. Quelle parole ! Dieu le Père affirme, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et repensons au premier spectateur, Pierre, Jacques et Jean, témoins de cette scène, de cette voix qui descend du ciel, dans cette nuée, qui dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Je crois qu'après cela, les disciples pouvaient quelque part se dire, ok, je peux le suivre jusqu'à la croix. Il est le Seigneur que je veux suivre. Et j'aime beaucoup cette parole que prononce le Père, parce que non seulement il révèle, il confirme que Jésus-Christ est le Fils bien-aimé, mais il révèle en même temps qu'au cœur de la Trinité, il y a une relation d'amour en qui j'ai mis toute mon affection. Je trouve ça, une fois de plus, vraiment sujet d'adoration pour nous. Et puis, les disciples sont sur la montagne, mais ils ne vont pas rester sur la montagne. Ils vont redescendre. Ils vont retrouver les personnes malades. Ils vont retrouver l'hostilité des pharisiens. Ils vont se diriger vers Jérusalem. Alors Dieu leur dit, le Père leur dit, écoutez-le. Écoutez-le pour le chemin qu'il vous reste. Écoutez-le pour votre vie. Et il nous dit, écoutez-le. Troisième affirmation à cette question, qui est Jésus-Christ ? Il est le Fils bien-aimé du Père, déclaré-t-elle par Dieu, par le Père lui-même. Si tu veux avancer. Au verset 6 et 7, lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Ils sont littéralement terrifiés et terrassés. Et pourquoi ils sont terrifiés et terrassés comme ça ? Alors, il y a à la fois le fait que Dieu se manifeste et quelque part devant Dieu, quelque part il y a de quoi être terrifié et terrassé par sa grandeur. Mais pour moi, et je me base plutôt sur Ésaïe 6, chaque fois qu'un homme se trouve en la présence de Dieu, il est quelque part terrifié par la sainteté de Dieu. Et quelque part, le Dieu saint va comme un rayon X pénétrer le cœur de tout homme qui se trouve en sa présence, mettant à nu tout ce qu'il y a dans nos cœurs. Et ça, c'est terrifiant. Apocalypse 1er qu'on a lu nous parle que ses yeux étaient comme une flamme de feu. Des yeux qui sondent nos cœurs. Il y a quoi ? Il y a vraiment de quoi être terrifié. Et pour moi, ça prouve tout ce que j'appelais la nécessité de l'incarnation. Si Jésus n'avait pas pris cette forme d'homme, s'il n'était pas venu marcher sur terre, s'il n'était pas venu vivre comme nous, impossible de rentrer en relation avec Dieu. Il est trop grand, il est trop saint. Il y a un abîme de sainteté entre lui et nous. Et donc, Jésus-Christ, Dieu glorieux, a abandonné sa gloire pour faire cet abîme qui nous séparait de lui, nous se montrer en homme, et qu'ainsi on puisse comprendre qui est Dieu. S'il n'a pas fait ce chemin, s'il ne s'incarne pas, c'est trop loin. Et on voit juste après que ils sont terrassés, mais Jésus s'approche, les touche, et leur dit « N'ayez pas peur ». Et vous avez là une magnifique tension pour moi qui devrait quelque part exister en nous. À la fois, Dieu est éclatant de gloire, Jésus est éclatant de gloire, de sainteté. Et en même temps, il est si proche qu'il me touche, qu'il touche les disciples. Et je crois qu'on doit apprendre à tenir les deux, avoir cette tension en nous. Jésus-Christ n'est pas mon pote, c'est pas mon copain. Il est le Dieu de gloire. Il est le Dieu saint. Et en même temps, il est mon ami, si proche, qui sait ce que je vis, auquel je peux tout partager. J'ai du mal à mettre ça dans ma tête, dans mon cœur en même temps. Mais il faut que j'aie les deux. Mon Seigneur est si proche, mais si grand en même temps. J'ai écrit comme ça, sachons connaître Jésus entièrement, avec ses deux facettes qui sont parfois difficiles à mettre dans nos têtes et dans nos cœurs en même temps. Et quelque part, c'est au-delà de notre compréhension, d'arriver à mettre en même temps Jésus éclatant de gloire, le Dieu de toute éternité, et en même temps, il est cet homme qui est au pied de ses disciples. Je ne comprends pas. Il est si grand, mais si proche de moi. Voilà, quelque part, il faut tenir ces deux choses-là en même temps. Hop, si tu veux avancer. Parce qu'on a à peine parlé de ce que Jésus voulait montrer aussi. Parce que je vous rappelle, le dernier verset qu'on avait lu du chapitre précédent, c'est « Certains ne mourront pas sans avoir vu le Fils de l'homme venir dans son règne. » Et donc ça ne voulait pas dire que Jésus allait établir son règne, mais qu'ils allaient voir en un instant comment Jésus allait revenir dans son règne. Et donc ils voient ça. Et donc ce qu'ils voient, c'est quelque part Jésus qui est revêtu de toute gloire, qui vient sur une montagne, sur une nuée, et il est entouré de deux groupes de personnes. Il est entouré des enfants de Dieu qui sont morts, illustrés ici par Moïse et Élie, qui vont ressusciter. Et puis, il y a aussi les vivants, lorsque Jésus revient, illustrés par les disciples qui sont là, que Jésus va prendre avec lui. Et quelque part, vous avez une scène du retour prochain de Jésus-Christ. Je reviens à ma question. Qui est Jésus-Christ ? Jésus-Christ est le Fils de Dieu, le Roi de gloire, qui va revenir, resplendissant comme le soleil, chercher ses enfants. En conclusion, ah merci, tu as déjà passé à la conclusion. En conclusion, pour ceux déjà qui, dans cette salle, ne seraient pas sûrs de savoir qui est Jésus-Christ, qui ne sont pas sûrs d'être un enfant de Dieu, qui n'ont pas cette certitude, et si à la question vous pensez, mais ben, je ne sais pas bien, c'est sûr ça doit être un guide, c'est sûr c'est un sage, c'est sûr c'est un exemple d'amour, je vous invite vraiment à aller plus loin et à changer de perspective. Devenir chrétien, ce n'est pas un ensemble de règles à suivre. Ce n'est pas des principes moraux. C'est rencontrer le Fils de Dieu. C'est rencontrer le Fils de Dieu glorieux, mais aussi voir qu'il a choisi pour moi de traverser l'abîme qui nous séparait de lui, qu'il a pris un corps, qu'il a vécu comme homme, qu'il est mort sur la croix pour moi. Et puis pour ceux nombreux dans cette salle qui sont des enfants de Dieu, ils le savent, ils en sont sûrs. J'espère que ce texte aura renouvelé votre vision de qui il est. Et quelque part, ça nourrisse votre adoration. Alors, on n'a pas pu assister à cette vision, on l'a lue. Moi, j'aurais trop voulu être avec Pierre, Jacques et Jean pour le voir réellement. Ce serait trop bien. Mais ce n'était pas pour moi, c'était réservé à eux trois. Et j'espère que dans vos temps de culte personnel, vous avez ces temps d'adoration où vous êtes face à face avec Dieu et vous le louez pour ce qu'il est, simplement. Pour ce qu'il a fait, mais pour ce qu'il est. Mais comme les disciples, on ne peut pas rester sur la montagne. On aimerait bien, c'est trop bien. Comme dit Pierre, on va construire des tentes puis on va rester là. Non, il faut juste redescendre dans la vallée. Il faut redescendre, et nous aussi on est appelés à redescendre et à servir notre Dieu en le faisant connaître. Que dans nos vies on sache montrer Jésus-Christ d'abord. Je me rappelle une discussion il y a quelques années avec mes filles où elles m'ont un petit peu bousculé en me disant « Mais en fait, tu nous montres beaucoup de règles, papa. » Mais je ne vois pas vraiment Jésus-Christ. Boum ! Ça, c'est fait. Est-ce qu'on montre Jésus-Christ, une personne? Est-ce qu'on montre d'abord qu'on vit avec lui et pas des règles? Et puis dernier point, et c'est le sens premier de ce passage, il revient bientôt. Il revient bientôt, rayonnant de gloire. Et je dirais qu'il a comme une double gloire, une triple gloire, si je peux dire ça comme ça. Il a sa gloire de fils de Dieu éternel, qu'il a récupéré, si je puis dire, les mots ne sont pas forcément justes, lorsqu'il a été élevé. Mais il a aussi la gloire de l'homme parfait. Il a la gloire de la croix, la gloire de l'anneau de Dieu. Et puis, si certains d'entre nous vivent des périodes difficiles, et ils sont nombreux, je voulais juste vous rappeler ce que dit Romains 8, au verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne saurait être comparé à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. On a vu notre Seigneur de gloire. Ce qu'il nous attend, c'est une éternité de gloire avec lui. Et nos misères de parfois nos vies ne sauraient être comparées avec ce qu'on va vivre avec lui. Je vous invite à prier. Seigneur, nous n'avons pas été sur cette montagne avec Pierre, Jacques et Jean, mais par ta parole, par ton Esprit Saint, on a pu te voir rayonnant de splendeur, majestueux. Seigneur, on veut t'adorer pour qui tu es. On veut te louer que tu aies abandonné cette gloire pour venir me chercher. Je te loue parce que tu as fait ce chemin de Dieu de gloire vers moi et par cela tu as été homme mourant. Seigneur, je te prie de me donner une vision équilibrée de qui tu es, si proche de moi et en même temps si grand. Et puis Seigneur, je te prie que chaque jour tu nous aides à témoigner de toi, à montrer qui tu es. Le Fils de Dieu si grand, si proche, que nous soyons vraiment des témoins de qui tu es. Amen.